Le journal de Thomas Nagy.
Bonjour, les dysfonctionnements majeurs chez RUAG font réagir alors qu'un audit accablant a été publié hier soir par le gendarme financier de la Confédération. Aujourd'hui, le Conseil fédéral demande des éclaircissements. Une motion pour assouplir les résiliations de bail dans le canton, c'est ce que propose le député Alain Beuret. Le Vert libéral demande de permettre une résiliation à la fin de chaque mois et non plus uniquement une fois par trimestre comme la loi le stipule. Le FC Franche-Montagne enchaîne quelques jours après avoir décroché sa qualification pour les playoffs de Mayo Kelly League. Les Teignons ont rendez-vous avec l'acte 1 de leur série face à Seven ce soir. La journée s'annonce nuageuse avec des averses qui se feront plus fréquentes cet après-midi, malgré quelques éclaircies par endroit. Au niveau des températures, les maximales atteindront 11 degrés en plaine et 6 dans les Franches-Montagnes. RUAG est à nouveau dans la tourmente. L'entreprise d'armement de la Confédération est épinglée dans 3 audits accablants du contrôle des finances. Sa gestion des stocks du matériel de l'armée n'était pas fiable, ce qui a permis des fraudes. Un cadre de RUAG aurait détourné et revendu des pièces de chars pour plusieurs dizaines de millions de francs. Un lanceur d'alerte a bien tenté de se faire entendre, mais il a été ignoré par la direction de l'entreprise et par le département de la Défense. Au lendemain de la publication de ces rapports, les réactions sont vives. Notre correspondant à Berne, Marie Vieumier.
Il faut que toute la lumière soit faite sur les problèmes de gestion chez RUAG. La ministre de la Défense, Viola Amherd, salue le travail du contrôle des finances et l'ouverture d'une procédure pénale. Mais elle estime que les mécanismes de contrôle doivent encore être renforcés. La commission de gestion du Conseil des États considère comme particulièrement grave les manquements de pilotage et de surveillance de RUAG. Elle prévoit d'interroger la direction de l'entreprise, son conseil d'administration et le nouveau ministre de la Défense pour déterminer des mesures à prendre. Et le groupe pour une Suisse sans armée se dit déçu mais pas surpris. Il veut interdire à RUAG d'exporter du matériel de guerre et il exige l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire.
Et plusieurs projets et entités liées à l'armée sont sous le feu des critiques depuis plusieurs mois. Des problèmes de gestion, de délai ou de dépassement des coûts sont en cause. Une situation qui pourrait avoir des conséquences majeures au sein du département de la Défense. Après le départ de la ministre Viola Amherd, 2 autres démissions sont annoncées ce matin par le journal zurichois NZZ. Le chef de l'armée Thomas Hussli et le chef du renseignement Christian Dusset auraient donné leur congé. Ces informations ne sont pas encore officiellement confirmées. Migros fermera la plupart de ses magasins Do It plus Garden d'ici fin juin. Aucune solution de reprise n'a pu être trouvée selon un communiqué transmis aujourd'hui par le géant Orange. Des négociations se poursuivent pour quelques sites avec des repreneurs potentiels du secteur du bricolage. Quelques 466 collaborateurs sont concernés par les fermetures. De son côté, la marque Mikasa est maintenue. L'enseigne d'agence intérieure est vendue à sa direction. Par ailleurs, Migros Zurich va abandonner l'exploitation des supermarchés Bio Alnatura à moyen terme. La contrebande de cigarettes est une activité en plein essor en Suisse. Les saisies dans les 3 aéroports internationaux du pays ont connu une forte hausse l'année dernière par rapport à 2023. L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières informe aujourd'hui que 882 000 cigarettes non déclarées ont été découvertes en 2024, transportées dans des bagages de passagers qui débarquaient en Suisse, et c'est presque 200 000 de plus que l'année précédente. Davantage de flexibilité pour la résiliation des baux à loyer dans le Jura. C'est ce que demande Alain Beuret à travers une motion récemment déposée au Parlement. Si le délai de résiliation de 3 mois dépend du Code des obligations suisses, le député Vert libéral demande que le gouvernement modifie l'usage local en vigueur concernant les termes pour la rendre possible à chaque fin de mois, excepté le 31 décembre, voire même l'introduire dans la législation cantonale. Le modèle de bail à loyer qui prévoit 4 termes possibles par année civile, soit les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre est trop restrictif selon Alain Beuret. Les précisions d'Émilie Moumentaler.
Alain Beuret souligne que l'échéance du 31 décembre est qui plus est même souvent biffée dans les faits. Si un locataire rate le délai de juin pour faire sa résiliation, il peut dans ce cas-là se voir obligé de garder son logement jusqu'au 31 mars de l'année suivante. L'élu du PVL estime en outre que la recherche d'un locataire de remplacement peut s'avérer compliquée dans une région qui compte passablement d'appartements vacants. La pratique d'avoir 11 options par an pour quitter son logement faciliterait aussi le travail des entreprises de déménagement. La société Thomas Déménagement à Courandelin confie que la situation actuelle est stressante et concentre fortement le travail sur des périodes données, alors qu'elle doit même parfois refuser des clients.
Si elle est acceptée, cette motion provoquerait des changements pour les propriétaires et les gérances. Président de l'association jurassienne des propriétaires fonciers, Benoît Bréchet nous a confié que davantage de termes pourraient entraîner un plus grand tournus au niveau de l'occupation des logements. Cela engendrerait une surcharge administrative et des coûts supplémentaires, notamment quant au rafraîchissement à effectuer entre deux baux à loyer dans les appartements qui seraient au final répercutés sur les locataires. Grand nettoyage sous les ponts de l'autoroute A16. Le service des infrastructures va prochainement débarrasser tout engin ou matériel entreposé sous ces ouvrages. Cette action fait suite à une demande de l'Office fédéral des routes. En 2020, il a établi une base de données nommée « Occupation illégale sous ouvrage ». Pour ça, l'OFRU a mandaté les unités territoriales responsables de l'exploitation et de l'entretien des autoroutes pour recenser les engins et les objets présents sous les ponts. Dans le canton du Jura, les choses ont empiré au cours des 5 dernières années. Daniel Stadelmann, chef de la section Unité Territoriale 9, fait le point sur la situation.
En 2020, il y a un premier état des lieux qui a été fait et à ce moment-là, on signalait uniquement quelques tas de bois à gauche à droite, donc c'était encore relativement supportable. Et puis depuis, il y a un petit peu une emballée et là, aujourd'hui, on se retrouve avec vraiment des vraies décharges quasiment sous certains ouvrages. Faut pas dramatiser, c'est pas des décharges à ciel ouvert, c'est vraiment différentes entités, soit des privés, des agriculteurs, des sociétés qui entreposent du matériel, soit momentanément, soit à long terme sous ces ouvrages. Je dirais que un ouvrage significatif, c'est le viaduc des Essers, par exemple, en dessous de Courfèvre. Pour le reste, c'est relativement encore une situation qui est gérée. On a déjà pris contact avec, je dirais, quasiment le 80 ou 90% des propriétaires. Et c'est eux-mêmes qui vont venir débarrasser leurs engins. Pour le reste, si par exemple on trouve pas le propriétaire, qu'on a une vieille carcasse rouillée, ben nous allons l'évacuer à nos frais.
Et les propriétaires d'engins ou de biens entreposés illégalement ont jusqu'au 17 mars à midi pour les évacuer. La chasse aux sorcières en Erguel est au cœur de la nouvelle exposition temporaire du musée de Saint-Imier. L'institution, en collaboration avec l'historienne et spécialiste des procès de sorcellerie dans l'ancien évêché de Bâle, Gilliane Barthes, propose de lever le voile sur cette sombre page de l'histoire locale. L'exposition s'intéresse particulièrement à la place du corps dans les procès. Les explications de Gilliane Barthes, co-commissaire de l'exposition.
On le voit quand même beaucoup dans les accusations où on a cette idée où les personnes disent « Ah, cette personne est venue chez moi, elle a touché ma jument et deux jours après, elle est morte. » Et on a vraiment toujours ce toucher qui apparaît, où le corps de la personne accusée de sorcellerie entre en contact avec du bétail, un enfant, un adulte, et il se passe quelque chose derrière. On a rarement des cas où la personne va se dire « C'est une sorcière », c'était des choses qui ne se disaient pas, mais c'était une ambiguïté, qu'on disait la personne est venue et deux jours après il m'est arrivé un malheur et elle a touché à ce moment-là. Et on a vraiment cette idée-là dans les accusations qui revient très souvent. Dans la possession aussi, on a ce souffle qui permet de souffler des démons sur les personnes. Et on a aussi ce corps dans la partie de la torture physique, donc le corps est utile à ce moment-là. Et puisqu'il n'y avait pas d'exécution sans aveu, on avait besoin que la personne avoue. Et pour que la personne avoue, la torture était un des moyens légaux à l'époque pour avoir justement cette vérification, cet aveu de maléfice et de pacte avec le diable. Donc on a de nouveau, encore une fois, ce corps qui est absolument nécessaire dans cette partie-là. Et dans les aveux finaux, souvent, effectivement, la personne dit aussi qu'elle doit toucher la main, que le diable a mis de la poutre dans sa main et qu'elle doit aller toucher du bétail. Donc on a de nouveau ce corps qui est un intermédiaire, finalement. Donc voilà un petit peu comment il est utilisé à travers les procès.
Et à noter que l'exposition au corps des procès de sorcellerie d'Erguel et de l'ancien évêché de Bâle est à voir au musée de Saint-Imier dès vendredi et jusqu'au 26 octobre. Le vernissage se tiendra ce jeudi.
Vous écoutez RFJ, il est 12h24.
RFJ, sport.
L'objectif des play-offs est atteint, mais le HC Franche-Montagne ne veut pas s'arrêter là. La formation tanyonne de Mayoke League dispute l'acte 1 des quarts de finale à Seven ce soir à 20h15. Une série qui se joue au meilleur des 5 matchs. Pour atteindre les phases finales, le HCFM a dû batailler en pré-play-off pour venir à bout de Vetsikon. Il a ainsi joué 3 matchs pendant que son adversaire Soleroy était au repos. Une situation qui n'inquiète pas le capitaine franc-montagnard Mathieu Braillet.
Je pense que c'est un avantage pour nous parce que on est dans la course, on est à fond, on s'entraîne, on joue. Et puis eux, ils ont quand même une pause d'une semaine, donc on va arriver et puis on va leur montrer de quoi on se sauve.
Sevens aussi un adversaire que vous avez affronté deux fois cette saison avec deux défaites. Est-ce que c'est quand même possible de faire quelque chose contre cette équipe-là?
Bien sûr, c'est les playoffs. Hein, maintenant, c'est vraiment différent du championnat. Tout le monde se donne à 100%, se couche devant les tirs, on met des sales buts, on doit y aller. Quoi. C'est pour ça qu'on vit puis qu'on joue au hockey. C'est pour les playoffs, donc on va tout donner.
On sait que l'objectif du club, c'était vraiment d'atteindre les playoffs. Pour vous, les joueurs, c'est du bonus maintenant ou on a vraiment envie encore d'aller chercher plus loin?
Non, c'est pas du bonus. Nous, on a toujours envie d'aller plus loin et puis on a envie de faire au mieux pour rapporter le maximum de points.
Mathieu Braillet qui répondait à Florian Wolfer. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée.
RFJ Sport.